through these fields of destruction. Baptisms of fire.
Chapitre 54. 3 octobre 1998, 11h33. Il roulait depuis 5 heures maintenant. Le Citroën orange et rouge de type H tenait le coup. Il peinait bien un peu sur les portions d'autoroute, plafonnant entre 100 et 110 km/h. Le stock de mini-cassettes était déjà épuisé. Un florilège de quelques incontournables des années 80, Sauver l'amour de Daniel Balavoine, Famous Last Words de Supertramp, Morgane de Toi de Renault, Positif de Jean-Jacques Goldman. Ils s'arrêtèrent à Vitry-le-François, une ville sortie de nulle part au milieu des champs de maïs de la Champagne, sans même un clocher pour prévenir. Ils déjeunèrent dans un restaurant coincé entre la Nationale et la Marne. Ils étaient les seuls clients. Marc, perdu dans ses pensées, se contenta d'une omelette salade. Malvina profita de tous les avantages du menu du jour, assiette de charcuterie, bavette échalote et crème brûlée.
« Ah ben, elle a bon appétit, votre petite dame !»
fit le patron en clignant de l'œil à Marc.
« Bah, on se demande bien où est-ce qu'elle met tout ça, hein ?»
Ils repartirent. Saint-Dizier, Chaumont. Les rebords du bassin parisien se succédaient. Les plaines céréalières étaient bornées par des lignes de cuestas, brusques pentes abruptes comme des marches d'escalier, avant de traverser à leurs pieds les dépressions orthoclinales boisées. Puis une nouvelle plaine céréalière. Le camion Citroën s'emballait un peu en descendant les fronts de cuestas, comme s'il n'allait jamais pouvoir freiner. Juste espérer une pente inverse pour ralentir. Renault chantait « En cloque » pour la troisième fois. Cela faisait près de 2 heures qu'il n'avait pas dit un mot. Malvina rompit le silence.
« Tu crois que Lise Rose voudra d'une sœur comme moi ?»
Marc traversait un village appelé Feilbio. Il resta muet.
« Tu la connais, toi ? Tu crois qu'elle est capable de comprendre ? D'accepter une grande sœur comme moi ? Vilaine, vulgaire, méchante ?»
Marc se taisait toujours. À tout prendre, il préférait l'humour thérapeutique de Malvina.
« Je peux changer. Tu lui diras, toi, que je peux changer ?»«
Tu es vraiment certaine que Lily est ta petite sœur ?»«
Évidemment, on fait front là-dessus, tous les deux, non ?»
Ils se turent à nouveau, pour 2 heures. Marc enviait l'absence de doute de Malvina, sa détermination. Elle semblait vivre dans une bulle que rien ne pouvait crever. Marc reçut le SMS de Lily alors qu'il venait de passer Vesoul. Le téléphone vibra dans sa poche. Il l'attrapa d'une main tout en continuant de rouler. « Marc, je rentre en salle d'opération demain matin à 10h. Tout est ok, ne t'en fais pas. Je te téléphone ensuite. Tout ira bien, je t'embrasse. Demain matin à 10h, dans moins de 24 heures. » Goldman hurlait « Envole-moi ». Instinctivement, Marc appuya sur l'accélérateur. Ils affrontaient un léger faux plat. Le Citroën type H n'avança pas plus vite pour autant. Plus les kilomètres défilaient, plus la folle hypothèse que l'esprit de Marc avait échafaudé prenait corps, gagnait en crédibilité, prête à s'imposer comme une évidence. Trois heures plus tard, il traversait Montbéliard, facilement. Les axes de l'agglomération comtoise semblaient surdimensionnés pour la timide circulation. Immense boulevard, avenue large, rocade. La ville semblait encore bâtie à la taille de l'usine Peugeot, à l'heure de son apogée et de ses plus de 40 000 employés. La plus grande usine d'Europe. Il en restait aujourd'hui moins du tiers. Marc colla sur les genoux de Malvina un atlas routier français au 200 millième, avec pour mission de les mener au croisement du Doubs et de la frontière suisse, au pied du Mont Terrible, jusqu'au lieu-dit Clerbief, puis d'y repérer le gîte de Monique Genevèse, le plus beau chalet de la région, d'après le cahier de Grand-Duc.
« Qu'est-ce qu'on va foutre là-bas ?»
grogna Malvina.
« Tu comptes récupérer le cash que mamie a envoyé à Grand-Duc ?»
Marc haussa les épaules. Il vérifia discrètement que le Mauser était toujours dans sa poche. Allait-il devoir se servir de son arme ? Pouvait-il avoir raison ? Avait-il tous été manipulé depuis le début ? Malvina n'insista pas et se concentra sur la carte. Elle s'en tira remarquablement. 10 kilomètres après Montbéliard, passé pont de Roide, le valeureux camion orange et rouge s'attaqua aux premières pentes du Jura. D'abord une route étroite en canyon, longeant le Doubs jusqu'à Saint-Hippolyte, puis la pente raide d'une petite départementale. Le camion peina, souffla, grinça, mais parvint tout de même à basculer de l'autre côté de la montagne. La vue sur le grand méandre du Doubs, qui s'offrait un crochet d'une trentaine de kilomètres en Suisse avant de sagement retourner en France, son lieu de naissance, était d'une beauté stupéfiante. Le camion redescendit allègrement vers la rivière, dans une forêt de pins parée de l'or des arbres voisins à feuilles caduques. Le gîte de Monique Genevèse était impossible à rater. Une seule route longeait le Doubs jusqu'à la frontière suisse, juste en face. Le bois clair du chalet se reflétait dans l'eau calme du fleuve. Marc retint son souffle. Il toucha une fois encore le Moser dans sa poche, inquiet. Il gara le camion sur un parking juste en face du chalet. Un panneau « Gîte de France » confirmait qu'il ne s'était pas trompé. Le parking, à l'exception du camion orange et rouge, était désert. Le temps semblait s'être arrêté dans ce village frontière du bout du monde. Marc respirait avec difficulté. Et si sa quête s'arrêtait là, au bout de la route ?
« Bon, on y va ?»
fit Malvina. « Minute. » Marc sortit le Moser L110 et s'assura qu'il était bien chargé.
« Mais tu fais quoi avec mon flingue ? Tu comptes braquer la mère Genevèse ?»
Marc fixa Malvina longuement, puis... « Tu te souviens du cadavre de Grand-Duc ?»«
Ouais. »
« Tu te souviens de quoi ?»«
Comment ça, de quoi ?»«
Tu te souviens d'un cadavre retrouvé chez Grand-Duc, qui portait les habits de Grand-Duc, ses chaussures, sa montre ?» Malvina blanchit d'un coup. Marc continua. Un cadavre, la tête dans la cheminée, le visage brûlé, couvert de cloques, au point d'en être méconnaissable. Malvina tortura ses doigts.
Tu veux dire quoi, là ?
Suis-moi. Ils descendirent du camion. Monique Genevèse se tenait déjà sur le pas du chalet, encadré par d'immenses jardinières de géranium. Bonjour, lança Marc. Nous sommes bien au gîte Genevèse ? L'entrée en matière n'était pas particulièrement audacieuse. Le nom du gîte était gravé en lettres énormes sur un panneau de bois verni. « Nous sommes des amis de Crédule Grand-Duc. » Le visage de Monique s'éclaira.
« Monsieur Grand-Duc, bien sûr que je le connais. Plus de 10 ans qu'il séjourne ici en décembre. »
« Il devait revenir plus tôt cette année, je crois. » L'hôtelière prit un air désolé.
« Exact. Oh, mais vous n'avez pas de chance. Il est justement reparti ce matin. »
Marc sentit la terre glisser sous ses pieds. À ses côtés, Malvina cessa de respirer. Monique Genevèse continua sur le même ton, sans percevoir le trouble de ses visiteurs.
« Il a dormi ici, dans la chambre 12, comme d'habitude, hier et avant-hier. Avant-hier, il est resté une bonne partie de la matinée. Il attendait le courrier pour partir. Ah, effectivement, il a reçu une grosse enveloppe. Mais ce matin, il est parti très tôt, vers 6 heures. »
Marc parvint à articuler quelques mots. « Vous savez s'il va revenir ? » ?»«
Oh, ça m'étonnerait. Quand il vient, il ne dort généralement qu'une nuit ou deux. Son pèlerinage, comme il dit. C'est un monsieur assez curieux, votre ami. Oh, gentil, poli, pour ça, rien à dire. Un sacré appétit aussi. Oh, mais là, par contre, tout de même, son histoire du Mont Terrible, oh, la catastrophe, l'avion, tout ça, 18 ans après. Comme si on ne pouvait pas oublier tous ces malheurs. Vous ne croyez pas ?
Marc demeura muet de longues secondes avant de bredouiller. Il a dit quelque chose ? Vous savez où il est parti ? Monique arrachait quelques tiges mortes de géranium.
Vous comprenez, hein ? Oh, Monsieur Grand-Duc, c'est pas le genre à faire des confidences, même après avoir vidé un litre de vin de paille. Et c'est pas mon genre d'en demander. Alors, non, vraiment, je l'ignore. Il est reparti à Paris, sûrement. C'est ce qu'il fait d'habitude, non ?
Marc insista un peu, pour la forme. Il ne tira rien de plus de l'hôtesse. Ils remontèrent dans le camion. Assise à côté de lui, Malvina cracha sa rage.
Oh, « Je te l'avais bien dit que ce salopard cherchait à nous baiser depuis le début !»
Marc ne répondit rien. Il ressentait une terrible impression d'impuissance. Crédule Grand-Duc, vivant, envolé. Le dernier fil de l'enquête venait de glisser entre ses doigts. Malvina insistait.
Et si t'avais deviné que Grand-Duc avait maquillé sa mort et liquidé un type à sa place ? Qu'est-ce qu'on est venu foutre ici ?
Ta gueule ! Malvina applaudit des deux mains.
Ah, t'es un génie, Vitral. 10 heures de route, 600 bornes, pour se retrouver là comme des cons ? On n'aurait pas pu téléphoner ?
La ferme !
Bah, tu pourrais au moins me payer une chambre chez Monique, hein. Ça a l'air classe.
Ferme-la, je te dis.
Oh, au moins une bouffe. Une cuite au vin de paille, ça me dit bien.
T'es trop conne. Je devrais te buter, là, tout de suite. Te balancer dans le Doubs et filer en Suisse.
Malvina regarda Marc avec une attention étonnée.
Que Grand-Duc soit une ordure, c'est pas vraiment un scoop. Alors c'est quoi ton problème? Pourquoi d'un seul coup, tu te mets à jouer les grands nerveux? T'as une urgence? Tu devais te marier demain avec ma petite sœur? T'avais déjà réservé la pièce montée?
Cherche pas, tu peux pas comprendre, t'as pas les diplômes.
Marc tourna nerveusement la clé dans le contact du Citroën.
On va où? On repart? On visite pas?
Ta gueule!
Je t'avais promis un putain de pèlerinage, alors on va suivre le chemin de croix jusqu'au bout.